Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Nous sommes le 22 mars 2023 et on vous accueille pour deux heures d'expertise liées au monde de vos placements. Merci de nous faire confiance jour après jour. Et ces deux heures d'expertise commencent par un survol de l'actualité économique et c'est avec Faiza Younsi.
BFM Business, l'info éco. Faiza Younsi.
La calme sur le secteur bancaire en attendant ce soir la décision de la Fed. Ça se calme en bourse pour les valeurs. Aux États-Unis, à la clôture, la banque First Republic a même bondi de 30%. Le Trésor américain rassure les marchés et se dit prêt à garantir tous les dépôts sans exception. En Europe, le sauvetage du Crédit Suisse a coûté cher à Lazard Frères. La société de gestion française a essuyé une perte de 142 millions d'euros. Son concurrent américain PIMCO a perdu, lui, 340 millions d'euros. C'est la conséquence de l'effacement de certains titres de dette qui a été décidé par les autorités suisses le week-end dernier. Malgré ses pertes et les secousses boursières, le président de la Fédération bancaire française assure qu'il n'y a pas de crise bancaire en Europe, contrairement aux États-Unis. Écoutez Philippe Brassac, qui était l'invité de Good Morning Business tout à l'heure.
Je suis désolé, il n'y a pas de crise bancaire. Il y a des banques qui sont en difficulté, et certaines d'entre elles très lourdement en difficulté, mais ce sont toujours pour des raisons qui leur sont propres. Il n'y a aucune propagation. Si on parle des banques américaines, la banque B n'est pas en difficulté du fait de la banque A et il n'y a pas de mécanisme de contamination, de contagion dans le système. Qu'il y ait des entreprises bancaires en difficulté localement, c'est évident, mais le fait qu'il n'y a pas de mécanisme de contagion, il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de mécanisme, interdit cette appellation très anxiogène du terme crise bancaire. Donc,
Philippe Brassac, le président de la Fédération bancaire française. Au Royaume-Uni, l'inflation réaccélère. Elle remonte à 10,4% sur un an en février contre 10,1% en janvier. Une accélération surprise. Les économistes s'attendaient plutôt à un ralentissement. Cette hausse des prix est tirée notamment par l'alimentation et les vêtements. Les prix des produits alimentaires n'avaient jamais autant flambé depuis plus de 45 ans, selon l'Office national britannique des statistiques. Après l'alerte sur le climat, alerte rouge sur l'eau. Une centaine de ministres et une douzaine de chefs d'État réunis jusqu'à vendredi à New York pour le sommet de l'ONU sur l'eau. Une crise mondiale est imminente, prévient l'organisation internationale. Les ressources mondiales s'épuisent. Et c'est ce qu'elle dit, en tout cas dans son dernier rapport. Les pénuries d'eau donc tendent à se généraliser et elles s'aggravent. Par exemple, depuis 20 ans, la durée des sécheresses a augmenté de 30%. On revient à l'actualité des entreprises avec Crédit Agricole et Stellantis qui vont racheter des activités d'ALD et LeasePlan. ALD, la filiale de location automobile de Société Générale, va céder ses activités dans 6 pays européens. Ça représente une flotte de 100 000 véhicules. Cette opération fait suite aux engagements qui ont été pris par ALD pour obtenir l'aval de Bruxelles à son projet de rachat de LeasePlan. 4 candidats pour la reprise des magasins Gap auprès de l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon. Selon Le Monde, il s'agit du néerlandais Emma, de la holding qui contrôle les 3 Suisses et rue du commerce et des enseignes de sport JD Sport et Intersport. Ces offres sont partielles, elles ne concernent que la moitié des 20 magasins en France et un tiers seulement des 365 salariés.
Merci beaucoup Faiza, qu'on retrouve tout à l'heure, bien évidemment, à 11h pour suivre cette actualité économique. Et nous, tout de suite, on se connecte au marché actions.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on retrouve donc Antoine Larry-Gaudry qui est installé comme chaque matin au cœur de cette salle de contrôle du CAC au siège d'Euronext à La Défense. Bonjour Antoine. Que se dit-on sur les marchés ? On est sur 2 séances consécutives de fort rebond, on va dire. Et puis ce matin, on sent comme une hésitation.
Oui, alors déjà, on souffle un petit peu, c'est tout à fait légitime après les deux belles séances qu'on vient de vivre. Faut pas oublier que le fait que le CAC 40 soit encore bien au-delà des 7000 points, alors qu'on s'est fait quand même une grosse frayeur ces derniers jours avec le secteur bancaire, reste quand même une sacrée performance. Bon, faut pas oublier qu'on est sur un marché qui est sous perfusion, à nouveau des grandes banques centrales dans l'immédiat, avec ces fameuses lignes de swap activées par les grandes banques centrales pour que le marché ne manque pas de liquidité, qu'on a quand même un trésor américain qui réfléchit à garantir globalement les dépôts bancaires dans le pays. Donc, on a un marché bon, qui est sous perfusion, mais qui fonctionne bien. On attend une décision de la Fed qui sera sans doute la plus importante de l'année. Là, entre la lutte contre l'inflation, les soucis autour du secteur bancaire, les avis des analystes qui sont extrêmement, extrêmement partagés. Regardez, bon, le consensus dit globalement, Jerome Powell va prendre en compte le stress du secteur bancaire, mais poursuivre quand même sa lutte contre l'inflation et donc trouver un moyen terme avec une hausse de 25 points de base. On a d'autres analystes qui disent non, pas du tout, il va faire comme la BCE. Son boulot, c'est de lutter contre l'inflation. Elle est tenace et il va rester sur 50 points de base. D'autres, Goldman Sachs, qui dit zéro hausse de taux. Le climat est trop incertain et on a même Nomura Securities qui prévoit une baisse de taux de 25 points de base. Donc autant vous dire que le diagnostic est extrêmement partagé. Parallèlement, Faiza vous l'a dit et c'est sans doute le chiffre du matin, on a l'inflation qui se remet à déraper du côté du Royaume-Uni. Alors c'est vrai que le Royaume-Uni pâtit d'une monnaie qui se déprécie avec l'euro et le dollar. Donc il y a des raisons à tout ça, mais le cœur de cette inflation, lui, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit dans les pays de la zone euro, que ce soit aux États-Unis, le cœur de l'inflation, il a tendance à repartir à la hausse. Et ça, ça reste inquiétant et ça le mérite de remettre un petit peu tout le monde d'aplomb ce matin. C'est sans doute pourquoi il y a une atmosphère un petit peu plus indécise. Bon, la correction reste quand même très limitée. Vous voyez, moins 0,07%, 7108 points. On a même du vert pour l'Eurostock 50 à plus 0,05. Le DAX à Francfort, plus 0,17. On a le secteur bancaire qui poursuit son redressement tranquillement. Crédit Agricole, plus 0,66% à 10,35. Société Générale, plus 0,34 à 22,01. Mais sinon, un petit peu plus défensives sont aux avant-postes. On a L'Oréal plus 1,19 à 390,20. On a Pernod Ricard plus 0,7% à 203,80. Plus forte hausse du SBF 120, tiens, c'est Ubisoft, plus 2,26 à 22,65. À la baisse, Unibail-Rodamco Amco Westfield moins 3,7, 51,49. Téléperformance moins 0,5 à 220,20. Airbus moins 0,79% à 120,64. Il y a quelques prises de bénéfices aussi sur pas mal de titres qui ont bien fonctionné ces deux dernières séances. Et donc le CAC légèrement dans le rouge, moins 0,08%, 7106 points. Attention à l'euro-dollar là, qui rallie très très rapidement en direction d'1,08. On est à 1,0786. Et puis correction spectaculaire autour de l'or. Vous vous souvenez, au milieu des incertitudes autour du secteur bancaire, on était parti largement au-delà des 2000 dollars l'once. Là, l'or ne cote plus qu'à 1940.
Antoine Larigolerie, qui chaque matin nous permet de vivre au rythme de ces marchés. Vous lui direz à vos souhaits, Antoine. On vous laisse transmettre.
Je vais dire à tes souhaits, oui.
On l'a bien entendu. Message. Allez, on continue à vivre au rythme du monde action et on file tout de suite chez Pierrick Bochet.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Pierrick Bochet qui nous attend donc du côté d'InnoCap Gestion. Bonjour Pierrick.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Vous nous proposez ce matin un éclairage, un coup d'œil, un retour aussi sur SES Imagotag.
Un retour, tout à fait. Alors SES Imagotag, qui est le leader mondial des étiquettes digitales pour le commerce physique, alimentaire et non alimentaire. Alors ce n'est pas une recommandation d'investissement, mais un exemple parmi nos convictions fortes. Pour rappel, InnoCap Gestion est actionnaire de SES Imagotag depuis de nombreuses années au sein de notre gamme de fonds Quadrige. Alors nous avons régulièrement évoqué ensemble le positionnement vertueux de cette magnifique ETI française qui construit la révolution digitale du commerce physique. L'intelligence de ces innovations permet aux chaînes de distribution de réduire leurs coûts et d'augmenter leur chiffre d'affaires en même temps. La productivité de ces solutions permet à ses clients de restaurer une partie de la rentabilité perdue par les pressions inflationnistes. Alors stratégiquement, SES Imagotag fournit à ses clients distributeurs les armes de la reconquête de parts de marché face aux magasins online. Et ces solutions rendent les magasins plus agiles, mieux connectés et pilotés par la data. Elles augmentent significativement leur performance. Notre dernier point d'actualité était à l'été 2022. Nous avions relayé l'optimisme du management qui qui anticipait pour 2022 des ventes d'environ 580 millions d'euros en croissance de plus de 35%. La réalité est encore plus belle. Le chiffre d'affaires a dépassé 620 millions d'euros. C'est une croissance de 47%. L'Europe est en croissance de 54%. Et la zone Amérique a connu la plus forte croissance. On est à plus 77%. Alors même que le déploiement du gigantesque contrat potentiel avec Walmart n'a pas encore démarré. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est la matérialisation du levier opérationnel. L'EBITDA est en progression de 81%. Il atteint 59 millions d'euros et représente une rentabilité de 9,4%. C'est une amélioration de 2 points. L'exécution est d'autant plus exemplaire que le contexte a été très difficile, matérialisé par des contraintes fortes qui ont affecté les approvisionnements, une augmentation historique du coût des composants et la hausse du dollar. L'incroyable vision du management sur les services à valeur ajoutée. Unique. Porte ses fruits, ses services, qui sont le cœur de l'intelligence apportée par les innovations, ont une rentabilité qui est très supérieure à celle des étiquettes. Ces services ultra différenciants atteignent 93 millions d'euros, c'est plus 46 millions d'euros sur l'année, et ils représentent déjà 15% des ventes. On a le croisement des courbes, les charges d'exploitation, c'est 12% des ventes, les services à valeur ajoutée, c'est 15%. Cet écart de 3%, c'est le principal marqueur du levier sur la croissance des résultats. Son amplitude devrait s'étoffer et ce sera le reflet de l'accélération progressive de la création de valeur pour les actionnaires. À très court terme, les perspectives restent excellentes. La visibilité est forte. Les ventes devraient atteindre 800 millions d'euros en 2023. C'est une croissance de 30% et la profitabilité devrait s'améliorer significativement. Quatre éléments favorables devraient se combiner cette année. Croissance des ventes d'environ 30%. Évolution favorable des coûts des composants, reprise de l'euro face au dollar, vous l'évoquiez à l'instant, très forte croissance des services à valeur ajoutée. Imaginez le potentiel de progression de la rentabilité en 2023, elle est très forte. Nous l'estimons à environ 5 points contre 2 points en 2022. L'accélération de la création de valeur nous semble bien en place pour SES Imago Tag.
Voilà quelques idées à avoir donc en tête sur SES Imago Tag. Et si on se réfère au consensus des analystes qui suivent cette valeur, eh bien ils ont une recommandation d'achat et un objectif de cours de 172,16 €. Merci beaucoup Pierrick Bauchet et InnoCap Gestion qui nous accompagnaient ce matin.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
L'heure de retrouver Yvan Mamallet. Bonjour Yvan.
Bonjour.
En duplex avec nous depuis la Société Générale CIB, avec de la Banque Centrale bien sûr et de la Fed, c'est l'actualité de cette journée. Contexte un peu particulier, est-ce que la Fed peut continuer à monter les taux? Conjuguons même autrement, doit-elle continuer à monter les taux?
Alors c'est un contexte particulier en effet, on a d'un côté... on a d'un côté des données économiques qui sont toujours assez fortes, hein, que ce soit l'emploi, vente au détail, et de l'autre, on a et une inflation sous-jacente par contre pardon, toujours élevée, et de l'autre, on a des incertitudes, enfin des turbulences sur le marché financier qui font peser une incertitude des risques quant à la croissance, la croissance à l'avenir. Alors ça amène pour le meeting d'aujourd'hui. Quant à l'issue à la décision de la Fed, ça mène plus d'incertitudes que d'habitude. C'est-à-dire que les anticipations de taux ne sont pas complètement ancrées. On a vu des marchés qui se sont accalmés hein, ces quelques derniers jours, et le sentiment que si la Fed venait à faire une pause, ça pourrait probablement envoyer un signal négatif au marché, et c'est un peu voilà, une des raisons pour lesquelles vraisemblablement la BCE la semaine dernière a fait 50 points de base, hein, c'est un peu pour cette raison-là. La Fed, si elle faisait une pause, quelque part, le signal qu'elle pourrait envoyer, c'est de dire le cycle est fini, prochain mouvement, ce serait une baisse de taux. En tout cas, c'est comme ça que les marchés pourraient l'anticiper, et c'est vraisemblablement pas le message que la Fed veut faire passer. Donc un message peut-être plus modéré de la part de la Fed, un peu plus toujours un peu plus dovish, mais pour nous une hausse de 25 points de base probable.
On sait, Yvan, que le banquier central, c'est un peu une langue particulière et que parfois, il faut guetter tel ou tel mot dans la bouche du ou de la banquière centrale, qu'il faut aller chercher telle formule dans le communiqué de presse. Est-ce que vous avez comme ça quelques clés à nous donner pour bien comprendre le Jérôme Powell ce soir?
Alors, il y a, en termes de langage, je pense qu'il faudra peut-être surveiller. C'est... C'est de voir en termes de détermination pour lutter contre l'inflation, qui était quand même des messages centraux de la Banque centrale, de la Fed, voir si quelque part le message commence à être un peu enlevé de ce point de vue-là. L'autre point important, ce sera ce qu'on appelle les dot plots, hein, les prévisions des membres de la Fed dans leur taux directeur. Il faudra voir s'il y a toujours une hausse de taux qui est supplémentaire après celle de ce soir, qui sera prévue par les membres de la Fed. Quel sera le timing de la première baisse des taux? Pour nous, on pense que la Fed, en fait, elle va rester dans une espèce de position de défaut, qui était leur prévision du mois de décembre, c'est-à-dire une hausse supplémentaire, des taux qui termineront à 5,25. Mmh. Et pourquoi cette situation-là? Simplement parce qu'on est dans un contexte d'incertitude, et quand on ne sait pas, autant rester sur une position assez conservative, assez conservatrice, assez neutre de ce point de vue.
Voilà donc pour la Réserve fédérale. Après, il faut aussi évoquer la BCE. Bon, c'était la semaine dernière, mais c'est vrai que dans le contexte qui change aussi en Europe, de ce côté-ci de l'Atlantique, on a vu les soucis de Crédit Suisse, etc. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette Banque Centrale Européenne et surtout du fameux taux terminal? Est-ce qu'on s'en approche?
Alors, sur le taux terminal, je pense qu'il faut voir que la Fed et la Banque d'Angleterre sont beaucoup plus proches, beaucoup plus avancées dans leur cycle de hausse de taux. Donc, ils sont plus proches de leur taux terminal. La BCE, pour nous, on est encore assez loin. Après, je pense que le message, pour moi, il était clair de la part de la BCE, de Christine Lagarde la semaine dernière, hein, c'est de dire, l'évolution à venir des taux dépendra des données économiques et de l'évolution des marchés, sachant que l'évolution des marchés aura une incidence sur l'activité et éventuellement sur l'inflation. Donc c'est un message un peu plus modéré, avec la BCE qui ne veut pas s'engager sur des hausses futures et qui va rester maintenant aux aguets des données à venir et des signaux possible ou potentiel de ralentissement de l'activité en lien avec les marchés.
Merci beaucoup Yvan Mamallet, Société Générale CIB qui nous accompagnait ce matin. Bonne séance sur les marchés. On attend donc ce communiqué de la Réserve fédérale ce soir pour savoir à quelle sauce la Fed nous mange. Le marché parisien, lui, il reste pour le moment très hésitant, -0,08%, 7107 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le Club Immo.
Club Immo qui accueille ce matin Gaël Thomas et Marie-Cœur de Roy. Bonjour tout le monde.
Bonjour Cédric. Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous Gaël pour Business Immo. Bon, il y avait un bel événement, le MIPIM. Qu'est-ce qui s'y est dit? Qu'est-ce qui s'y est passé? Qu'est-ce qu'on retient? On a le moral, on dans les chaussettes, on y croit encore. Dites-nous tout.
Bon, le MIPIM, c'est la grande messe de l'industrie immobilière mondiale, on va dire plutôt européenne et Moyen-Orient.
Il faisait beau, non?
Il faisait pas mal.
Il y a bonne mine.
C'était assez sympa. Ouais. Ouais.
C'était pas la météo qui comptait. C'était la météo de l'IMO.
23 000 participants. Ce qui veut dire que c'était une très bonne édition. Là, on revient sur des crues pré-Covid. Bon, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des investisseurs qui étaient pas totalement démoralisés, mais qui étaient un peu résignés. Résignés à avoir une baisse des valeurs, c'est ce que tout le monde attend. Donc, vous savez, chez l'investisseur, il y a toujours deux parties dans le cerveau. Il y a la partie vendeur. Et donc, on est encore en France dans le pas vendu, pas perdu. Donc pour l'instant on ne veut pas forcément acter, même pas des moins-values, acter des baisses
de plus-value,
des baisses de plus-value. Ouais. des baisses de valeur par rapport aux valeurs d'expertise. Il y a à peu près 6 milliards d'euros d'actifs en immobilier d'entreprise qui ont été retirés de la vente en 2022 pour dire on n'était pas d'accord, il y a vraiment une distorsion avec les acheteurs. Et côté acheteur, évidemment, on se dit moi, j'ai pas besoin d'acheter parce que c'est pas assez bon marché. Donc, il n'y a pas de rendez-vous aujourd'hui entre l'offre et la demande, entre vendeurs et acheteurs. Donc, on a un marché de l'investissement, en tout cas en immobilier professionnel, qui est un peu gelé, très concrètement. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend ce que va dire la BCE, ce que va dire la Fed, on attend les taux. La plupart des investisseurs que moi j'ai rencontrés s'attendent à avoir un plateau autour de 4%. Ils ont été biberonnés à de l'argent gratuit pendant 10 ans, donc ils se prennent 300 voire 400 points de base en l'espace de 6 mois, 1 an. C'est assez violent. Donc il faut reconstituer la prime de risque de l'immobilier. D'ordinaire, on dit qu'il y a une prime d'illiquidité pour les meilleurs actifs immobiliers qui serait de 200 points de base. Donc il faut un petit peu revoir cette grille de valeur. On avait interrogé, notamment pendant le MIPIM, Philippe Depoux, qui est le patron de la Française REM, et qui lui, mine de rien, travaille un petit peu. Il a un peu plus de 800 millions d'euros.
Oui, parce que 800 euros, finalement.
800 euros, c'est une limite, ouais.
C'est non,
800
de Marie,
millions
hein.
d'euros de transactions qui sont actées ou qui sont dans le pipe. Et donc, il donne une nouvelle grille de valeur. Grosso modo, ce qu'il vise, il gère beaucoup de SCPI, il vise un taux moyen de rendement de 5%. Voilà, c'est un peu l'objectif. J'achète autour de 5%. C'est ce qu'il achète, du bureau à 5%. Autant dire que ça se trouvait pas dans Paris QCA où on a atteint des 2,75. Mais vous comprenez que d'acheter du bureau, si beau soit-il, si prime soit-il, en dessous du livret A, ça devient un tout petit peu compliqué pour des investisseurs institutionnels. Donc voilà, on est dans cette fourchette. Ce qu'il faudra suivre quand même, c'est l'appétit de monsieur et madame Michu pour l'immobilier, notamment au travers des SCPI. Les SCPI ont versé grosso modo 4,5 à peu près de performance en 2022. Vous avez vu un peu la collecte du livret A le mois dernier. Qui est record. Je crois qu'on est à 6 milliards.
Ah oui, pour cause 3% et ça va encore augmenter là. Hein, donc
au bout d'un moment, il y a un arbitrage qui se passe chez les investisseurs, qui va se passer aussi chez les investisseurs institutionnels qui forcément ne sont pas ultra pressés d'acheter et qui sont pas encore aujourd'hui totalement vendeurs. Donc ce qui va peut-être débloquer le marché, en tout cas ce qu'on a entendu au MIPIM, ça va être la vague de refinancement. Car tous ceux qui ont acheté il y a 5-6 ans à des valeurs assez conséquentes, mais surtout à des taux très bas, aujourd'hui au moment où vous refinancez, vous savez que chez les professionnels, on a des crédits de 5 à 7 ans avec du taux variable. C'est pas comme les particuliers qui ont plus gavé en taux fixe à 1%, bravo pour eux. L'inflation va faire le boulot. Là, ça va être un sujet un peu plus compliqué.
Voilà donc pour ce retour du MIPIM, rien de très surprenant finalement, c'est la traduction chez les pros.
C'est exactement de ce qui se passe chez les particuliers évidemment, enfin cette espèce de moment un peu stand-by où on a un coup d'arrêt de tout ce qui se fait. C'est-à-dire que là on n'assiste pas encore du côté du marché résidentiel à un effondrement des prix, même si la correction a démarré, ça y est, mais on n'est toujours pas sur un effondrement des prix, mais face à la hausse des taux d'intérêt et à la hauteur des prix justement, puisque la baisse des prix n'est pas encore à ce point considérable qu'elle relance le pouvoir d'achat, on a une espèce de moment où il ne se passe plus grand-chose. C'est-à-dire que les vendeurs préfèrent presque attendre un petit peu, les acheteurs ne peuvent pas acheter. Donc, tant que les vendeurs n'auront pas compris qu'il faut accepter que machin, etc. Donc, on est dans ce petit moment où, et d'ailleurs, on voit, les chiffres de transactions sont en baisse assez considérable, ce qui fait que ça se traduira, bon, normalement, quand même, par une baisse de prix, il faut quand même s'y attendre. Mais voilà. Alors, après, est-ce qu'on va avoir un effondrement du marché immobilier? Alors, tout le monde dit, vous écoutez tous les professionnels de l'immobilier, je parle du l'immobilier résidentiel, mais je pense que dans le pro, c'est pareil. J'ai pas de boule de cristal, c'est la phrase. J'ai pas de boule de cristal. Bah, en même temps, il y a quand même des petites règles. Hein. C'est que oui, les transactions vont baisser. Après, on était arrivé à tel niveau que tout le monde essaye de relativiser cette baisse en nous disant qu'on sera de toute façon quand même pas très loin du million de transactions dans l'ancien. Donc, ça reste une des meilleures années de l'histoire, machin, etc. Il faut voir jusqu'où on ira, en fait, et combien de temps cette situation va durer. Et là encore, que ce soit sur le marché résidentiel comme sur le marché des professionnels, vous avez quand même cette vraie question de que vont faire les banques centrales, parce que ça sera toujours ça le juge de paix à la fin, et donc l'orientation des taux d'intérêt. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que, mais en fait, l'alpha et l'oméga aujourd'hui, ça reste pour les particuliers le taux d'intérêt et l'accès au crédit. Et donc, si effectivement on continue avec des décisions de hausse des taux, comme on a vu récemment, bah oui, effectivement, il y a certains courtiers qui nous disent là, on tablait sur 3-3,5%, on sera peut-être sans doute très vite à 4%, peut-être même d'ici l'été, c'était vous financiers qui nous disiez ça, empruntissent aussi. Donc, effectivement, 4% d'intérêt, bah oui,
mais
c'est.
Mais l'immobilier,
pas rien,
c'est travailler avec des taux d'intérêt. Les professionnels savent travailler avec ça. Ce qu'il faut, c'est une stabilisation, en fait. Là, on a eu une remontée assez spectaculaire des taux directeurs, donc qui a été très rapide. Il faut voir que l'immobilier a toujours un temps de retard. Il y a une inertie au moment où vous signez votre promesse et au moment où vous passez chez le notaire, il y a minimum 3 mois. Au moment où vous avez initié le deal, que ça soit pour un particulier comme pour un professionnel, il se passe grosso modo un semestre. Donc, en fait, il y a cette espèce d'inertie qui fait qu'aujourd'hui, il y a quelques effets de ciseaux. Le plus spectaculaire, il est dans le logement neuf, avec les promoteurs qui ont acheté du foncier cher, qui se sont pris la hausse des coûts de construction avec la hausse des coûts de prix de l'énergie. Et en fait, il n'y a plus d'élasticité sur le prix. Et ce qui est un peu nouveau, c'est qu'il y avait un choc d'offres en 2022 sur le logement neuf. Et là, on commence à avoir un choc de demande. Ouais. On rend les clés, on rend les promesses.
Même de la rapidité, enfin, la rapidité des taux, effectivement, de la hausse des taux, elle est. Mais de fait, enfin, quoi qu'il arrive, même si on se stabilisait autour de 3,5-4%, tant que les prix n'auront pas eux-mêmes baissé, de toute façon, ça réduit de fait la capacité d'emprunt des particuliers. Aujourd'hui, enfin, on le rappelle, hein, à des taux de 3-4%, faudrait que les prix, pour retrouver notre pouvoir d'achat d'il y a juste un an et demi, deux ans, faudrait que les prix baissent de 25-30%. Franchement, on n'y est pas. Et franchement, si les prix de l'immobilier venaient à baisser de 25-30%, on serait vraiment, vraiment sur une vraie grosse crise quand même. Là.
Ça s'appelle la craque.
Voilà.
Vous commencez votre propos en disant on essaye pour le moment de pas trop.
Avec le micro, ce sera mieux. Vous commenciez votre propos tout à l'heure en disant on essaye pour le moment, non pas de faire des moins-values, mais enfin d'éviter de faire des moins-values, mais d'éviter de trop perdre de plus-value en décidant de vendre. Qui va craquer le premier? Ça va être le particulier qui va acter une baisse du résidentiel ou sont les pros qui vont être obligés d'acter dans leur portefeuille une baisse
des actifs? C'est les vendeurs forcés, ceux qui sont obligés de vendre.
Donc les particuliers plutôt.
Bah, les particuliers sont obligés de vendre quand il y a un divorce, quand il y a un décès, quand il y a des choses de la vie qui se passent. Et puis un professionnel, il est un peu obligé de vendre quand il a un refinancement. Donc en fait, c'est les vendeurs obligés qui vont donner le là. Voilà. Après. Chez les professionnels, ils ont acté dans leur tête en tout cas, pas encore dans les comptes, mais dans leur tête, ils ont acté le fait que les prix allaient repricer, allaient baisser. C'est vrai en Angleterre, c'est vrai à peu près partout, c'est vrai aux États-Unis, c'est un peu moins vrai en France, mais on voit quand même des petites baisses de valeur. Il suffit de regarder aujourd'hui les cours des foncières, ils ont acté cette baisse de valeur. Elle sera profonde, violente pour certains actifs qui sont mal situés parce qu'il y aura une vraie dichotomie par rapport aux sous-jacents immobiliers, par rapport aux produits. Donc si vous avez un bureau mal fagoté en deuxième périphérie qui correspond plus aux nouvelles normes du décret tertiaire et dont le bail un 12 enferme
et qui n'a pas de nouvelle station du Grand Paris
et qui n'a pas beaucoup de liquidité sur cet actif, il vaudra potentiellement rien, il vaudra le prix du foncier. Mais si vous avez un immeuble dans Paris QCA avec beaucoup de demandes, il vaudra toujours quelque chose.
Non, mais juste pour faire la corrélation sur le marché résidentiel, il y a aussi le sujet de ça dépend de quand ils sont rentrés sur le marché. C'est-à-dire que moi, je veux pas faire le café du commerce, mais il y a encore deux jours, je discutais avec un cher collègue qui a acheté il y a un an et demi et qui se dit si je veux refaire un autre enfant, par exemple, et que je veux déménager, aujourd'hui je le ferai pas parce que je sais que les valeurs sont en train de baisser, je vais faire une moins-value et donc là je ne veux pas. Et donc typiquement. Ça va aussi freiner la mobilité. J'arrête pas de vous en parler avec plein de data qui circulent sur le marché locatif, etc. Mais là, on est sur une situation problématique où on a des gens qui sont devenus propriétaires, allez, ces 5-6 dernières années, qui vont refuser ou qui vont se forcer à conserver par peur de faire des moins-values. Et donc, on va freiner, couper, stopper la mobilité et donc le parcours résidentiel aussi pour tout un tas de potentiels primo-accédants qui vont rester locataires. Ça va renchérir les loyers. Enfin, voyez, en fait, l'effet domino que ça peut avoir sur les marchés. Et j'imagine que c'est potentiellement la même chose sur le tertiaire, mais voilà.
Comme quoi ça mène loin d'aller au MIPIM.
Bah oui.
Allez, on marque une pause et on se retrouve pour continuer à parler immobilier dans un instant. Entre temps, on aura fait un détour sur le marché grâce à nos traders et puis on aura accueilli Nicolas Dose. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on est ensemble pour vivre également au rythme des marchés. C'est d'ailleurs la promesse à l'entame de chaque demi-heure et à 10h30. Ce sont deux traders qui sont aux manettes et qui lisent graphiquement la séance du jour. Mathieu Cérone depuis Perceval Finance Conseil et Gilles Santacreux chez Boursicoté.com. Bonjour messieurs et merci d'être au rendez-vous. Gilles, comment analysez-vous cette pause? Bon, c'est vrai qu'on reste sur deux séances consécutives de beaux rebonds et ce matin on réfléchit.
Alors on réfléchit, on est surtout dans l'attente de ce que va dire la Fed à 19h, hein, puisque il va y avoir les taux suivis d'une conférence de presse, il va y avoir les projections futures. Donc c'est un petit peu ça que les investisseurs attendent. Alors au niveau de la configuration technique, on a une configuration qui est assez particulière, hein, puisque on avait eu donc un gap de rupture baissier le 10, qui avait été suivi d'une accélération baissière le 13 mars. Depuis, on était dans une grosse dynamique, beaucoup de volatilité, beaucoup de volume, énormément de volume sur les phases de baisse et beaucoup moins de volume sur les phases de rebond. Et là, on est sur l'effet inverse, c'est-à-dire qu'hier, on a ouvert un gap de rupture à la hausse, mais sans relais derrière. Donc pour l'instant, ce mouvement, il est essentiellement technique. Tant qu'on est autour de la zone des 7110 points, on a un rebond d'une dynamique, mais qui reste baissière. Et certainement que c'est la Fed qui va débloquer tout ça et qui pourra nous donner soit l'impulsion qui nous permettra de prolonger ce rebond et donc d'avoir un début de retournement, soit eh bien un infléchissement de ce rebond et un retour sur des niveaux inférieurs qui nous feraient craindre une poursuite donc du mouvement baissier. Alors les niveaux à surveiller, on a un niveau central sur lequel on a buté hier, c'est le niveau des 7110 points. Tant que l'on est autour de ce niveau, le rebond est essentiellement technique, il n'y a pas grand chose à attendre. Si les cours redescendaient sous 7015, on redescendrait sur un niveau d'alerte baissière où on pourrait connaître une nouvelle accélération sur franchissement de la zone des 6850. Pour vraiment sortir de la zone de danger, il faudrait au moins rester au-dessus de la zone des 7110 et revenir au niveau des 7200 points. Ce à quoi on assiste actuellement est nourri par les banques. On le voit encore aujourd'hui. Les banques, eh bien, rebondissent bien. Mais on sent qu'il y a, je dirais, une inquiétude de fond autour de ce secteur. Les banquiers centraux ont beau rassurer. Par rapport justement à tout ce qui se passe, on sent quand même qu'une inquiétude subsiste au niveau des investisseurs quant au secteur, justement, bancaire.
Voilà donc quelques éléments techniques de réflexion mis en lumière par Gilles Santacreux. Mathieu Céron, comment voyez-vous aussi effectivement cette phase d'attente, de respiration, de consolidation peut-être pour certains?
La confusion règne. On est dans une phase de porte de saloon qu'il est difficile à travailler. Puisque travailler à marché non directionnel avec une forte volatilité rend les choses compliquées. C'est pour ça que dans cette phase-là, il faut être technique, dans le sens s'appuyer sur des signaux techniques plutôt que jouer des repères graphiques. Vous voyez, nous on est des adeptes des repères graphiques, mais c'est vrai que au vu de ce qui se passe, de la violence dans les mouvements, le CAC depuis le point bas de lundi a déjà repris 5%. Gilles en parlait, les bancaires ont nettement surperformé. On est sur des hausses de 15% environ sur la plupart des valeurs bancaires. Donc c'est difficile de se projeter dans ces conditions-là. On a une zone de résistance autour de 7160-70 qui fonctionne bien pour l'instant. Donc nous, on continue. C'est vrai que même si avec la reprise des derniers jours, on tend vers la neutralité sur le fond, donc une absence totale de tendance et puis une neutralisation, c'est vrai que on est un petit peu plus à l'aise à l'idée de travailler tout de même à la vente. 7160-70, c'est une zone dans laquelle on peut le faire. Au-dessus, il y a un bon cran au-dessus, c'est 7250. On remarque aussi que la volatilité a pas mal baissé. On est monté à 25-26 de volatilité en fin de semaine dernière et début de celle-ci. Là, on est retombé à 18. Donc, il est logique de mettre à profit cette baisse de volatilité pour intervenir sur les options et fermer des risques ou jouer des paris directionnels, considérant que dans la phase actuelle, quoi que l'on fasse, les probabilités de réussite ne sont pas maximum. Vous voyez, je vais pas dire qu'on tend vers de l'aléatoire, ça serait un petit peu exagéré, mais difficile de se projeter dans ces conditions-là. Donc, en ce qui nous concerne, on n'est pas pessimiste sur le fond. Vous voyez, autant on s'attend à, on va dire, à court moyen terme, à ce que ça soit un peu heurté, chaotique. En revanche, dans une optique un petit peu longue, on n'est pas pessimiste. On voit bien que malgré des phases de stress comme en début de semaine, il n'y a pas d'effet domino, il n'y a pas de vente de panique. Au contraire, même les marchés rebondissent avec toujours des considérations techniques qui sont prépondérantes, d'où les contre-pieds très violents que nous avons. Donc nous, on profite justement de ces trous d'air là passagers pour acheter quelques valeurs. Alors plutôt des valeurs, on va dire, décorrélées du secteur bancaire. Pour l'instant, ces valeurs-là, on reste un petit peu sur la touche. Mais vous voyez, fin de semaine dernière, on proposait du Total, du LVMH. Début de semaine, on a proposé du Vivendi, de l'Arcelor. Voilà, sur des replis, puisque nous, on évoquait la possibilité d'un potentiel épuisement épuisée lorsqu'on était à 7003, 7004 pour reprendre des initiatives sur un repli, eh bien justement, on met à profit ce repli-là pour reprendre quelques initiatives à l'achat, mais d'une manière modérée. Donc la toile de fond, c'est on n'est pas pessimiste donc dans la tendance long terme, mais en revanche, à court-moyen terme, il faut s'attendre à ce qu'il y ait toujours une forte volatilité avec une absence de directionnel et ça devrait durer cette phase-là.
Merci beaucoup à tous les deux, donc Mathieu Céron, Perceval Finance Conseil, et Gilles Santacreux qui nous accompagnent ce matin depuis boursicoté.com. On se retrouve tout à l'heure à 11h30, Gilles, pour suivre les évolutions graphiques de la séance du jour.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Et pour la polémique, c'est Nicolas Dose. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Rué sur le livret A, il signe son meilleur mois de février depuis 2009. À combien s'élève cette collecte ?
6,3 milliards de collecte nette, donc 6,3 milliards déposés en plus de ce qui a été, par rapport à ce qui a été retiré. La collecte a doublé sur un an. Si vous prenez livret A et LDDS, il y a 529 milliards d'euros tout de même d'encours aujourd'hui. Et alors, c'est donc effectivement meilleur février, mois de février comparé à 2009. Et 2009 a été une année complètement incroyable pour le livret A. Parce que c'est une année hors norme dans la mesure où c'est là où on décide de d'étendre la distribution du livret A à tout le secteur bancaire, alors qu'avant c'était un monopole qui était porté depuis des années par la Poste et par les caisses d'épargne.
Qu'est-ce qui explique ce succès ?
La rémunération qui passe de 2 à 3% le 1er février, c'est quand même très symbolique, 3. Si vous aviez, vous savez, c'est comme les prix dans les catalogues, si vous avez 2,9, vous n'avez pas le même effet psychologique que 3. Et le taux du livret A, si vous prenez sur un peu plus d'un an, depuis janvier 2022, il a été multiplié par 6, tout de même. Et si on suit la formule de calcul, qui prend en compte à la fois le taux d'intérêt monétaire mais également l'inflation, on devrait au mois d'août, il y a deux dates par an, et au mois d'août, donc, on devrait avoir une hausse a priori de 3,5% en théorie. Il y a une hausse en février, une hausse au mois d'août traditionnellement. La deuxième raison, c'est que face à l'inflation, qui est quand même bel et bien là, il y avait pas mal d'argent qui dormait sur les comptes courants. Là, c'est franchement perte sèche. Et donc, certains se disent, bon, là, c'est l'inflation, elle est là. On va peut-être bouger un peu l'argent des comptes courants et mettre ça un petit peu sur des produits qui rapportent. Alors oui, 3%, on est sous l'inflation, c'est rendement négatif. Enfin, c'est moins négatif
que rien du tout.
Courant. D'accord. Après, troisième élément, il y a sûrement un phénomène de vase communicant avec l'assurance vie en fonds euros. Parce que là, on a eu les chiffres de la PCR, la Banque de France, hier. 2% de rémunération moyenne en 2022. C'est 3 pour le livret A. Et les deux produits sont de la concurrence. Et il y a probablement de la bascule de l'assurance vie vers le livret A.
Vous avez même si on rappelle que l'utilité patrimoniale des deux produits n'a rien à voir.
On est bien d'accord. Après, vous avez un quatrième effet, c'est qu'il y a toujours une tendance à l'épargne et au freinage de la consommation quand il y a de l'inflation et de l'incertitude. Or, l'incertitude, quand même, il y en a aujourd'hui. Et puis, on a eu constaté aussi probablement que, en janvier, février, il y a sans doute quelques aides et primes au pouvoir d'achat qui sont pas allés dans la consommation, mais qui sont allés en épargne, tout simplement. Tout le monde n'a pas utilisé ces différents chèques. Et puis bon, vous avez les éternels, inaliénables attraits du livret A, argent parfaitement liquide, parfaitement garanti et totalement défiscalisé. Voilà ce qui explique que le livret A se porte si bien aujourd'hui.
Donc de l'inflation et de la hausse de taux, ça explique en partie...
Exactement. En fait, vous vous rendez compte que oui, effectivement, le rendement est négatif et pourtant, on va chercher du rendement. Bon, même si l'inflation, à terme, finit toujours par rogner les rendements, c'est l'euthanasie des rentiers, comme disait Keynes. Mais on se rend compte, finalement, ce phénomène d'inflation qui entraîne les taux à la hausse, c'est un bouleversement total de l'économie. C'est de la dette publique qui coûte plus cher, c'est du crédit qui coûte plus cher, ce sont des canards boiteux de la finance qui vont au tapis, c'est de la croissance qui peut, à terme, être menacée si les taux montent trop fort et trop vite. Et c'est aussi un marché de l'immobilier qui finira peut-être par ressentir les effets. D'ailleurs, ça a commencé. Et on voit qu'une bonne partie de la réponse de tous ces mouvements macroéconomiques, eh bien, c'est dans les mains des banques centrales.
Alors, ces banques centrales, elles sont à la manœuvre. On a vu la BCE la semaine dernière. Là, on attend la Fed. Quels sont les enjeux ?
L'enjeu, c'est de réussir à savoir si on peut, avec une banque centrale et une décision de politique monétaire, réussir à stabiliser le secteur financier tout en stabilisant les prix. Il y a un côté un peu schizophrène là des politiques monétaires et on se demande si les banques centrales ne sont pas devenues carrément prisonnières des banques. Hein. Les banques ont l'air un peu immortel, et les banques centrales ne sont-elles pas prisonnières des banques et de leur rôle de prêteur en dernier ressort? Alors, on a fait des années de QE, c'était l'assouplissement. Maintenant, on essaye de faire du QT, c'est le quantitative tightening, là, c'est le resserrement. Il y a un moment où, si vous voulez, la facture tombe. Et on a vu que, face au risque d'embarrassement du secteur bancaire, la Fed a agi dans l'urgence. La Fed a agi dans l'urgence, c'est-à-dire qu'elle a mis en place un nouveau programme de liquidité d'urgence pour les établissements financiers qui s'appelle le BTFP, le Bank Term Funding Programme, qui s'est ajouté à celui de liquidité d'urgence qui existe déjà, le Discount Window, le classique. Et bah, en l'espace d'une semaine, il y a eu 165 milliards de dollars de liquidités libérées pour les banques américaines, dont 12 milliards au titre de ce nouveau programme. Il a une particularité, ce nouveau programme. La banque obtient de la liquidité, du financement, qui est gagé sur des titres sûrs. Ces titres sûrs, ce sont des bons du Trésor américain, mais ils sont calculés à leur valeur faciale, à leur valeur d'émission, et pas à leur valeur de marché, pas en mark to market. Si ça avait été le cas, par exemple, pour SVB, il n'y aurait pas eu les pertes quand ils ont dénoué leurs obligations. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on se rend compte que, en fait, les banques centrales peuvent faire les deux. Cette schizophrénie, un banquier central a des pouvoirs que les autres n'ont pas. Il peut être pompier. Et il peut être pyromane en même temps. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va probablement continuer à monter les taux pour juguler l'inflation et continuer à mettre de la liquidité ad libitum pour le secteur bancaire, car aujourd'hui, les banques centrales en ont la possibilité. Et en fait, dans les faits, si le secteur bancaire est sous pression et contraint de prendre moins de risques, ça va renchérir le coût du crédit. Et paradoxalement, la tempête bancaire, elle joue le rôle d'une politique de resserrement monétaire, puisqu'elle-même, à elle seule, elle va remonter les taux et renchérir le coût du crédit. Voilà la situation qui est toujours un peu particulière quand on parle des banquiers centraux. Réponse de la Fed aujourd'hui, en tout cas sur les taux, on pense que c'est 25 points de base.
Nicolas Dose, chaque jour pour la polémique. Merci Nicolas, tout de suite un coup d'œil justement sur ces marchés.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance. Expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Et c'est du vert alors qu'on évoluait sous le niveau de clôture du CAC depuis ce matin. Le CAC est parvenu à grignoter quelques points, 7124 points, plus 0,16. Ailleurs en Europe, c'est également une hausse de 0,16% qui prévaut. Les principales hausses du jour à Paris, Soggen, BNPP et Crédit Agricole, toutes ces valeurs gagnent entre 2,5% et 1,6%. Ce sont Dassault, Téléperf ou encore Legrand qui ferment la marche. Le Rodol est à 1,0788.
BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
Retour sur ce club IMO avec autour de la table Gaël Thomas pour Business IMO et Marie Cœur de Roy qui nous accompagne chaque matin. Après ce petit détour sur la Croisette et le MIPIM, un petit mot de Paris et du PLU bioclimatique. De quoi s'agit-il ?
Eh bien, la mairie de Paris est en train de réviser son plan local d'urbanisme. Et ils veulent qu'il soit bioclimatique. Donc il y a des grosso modo de faire de la réhabilitation la norme et de démolition, construction, l'exception. Et l'objectif, il y a des objectifs écologiques très forts, donc de réduire l'empreinte carbone des bâtiments, de végétaliser au maximum Paris, qui est une ville assez minérale, il faut le reconnaître. Donc il y a notamment dans les objectifs de créer plus de 300 hectares d'espaces verts et grosso modo de proposer 10 hectares d'espaces verts par habitant. Alors, faut pas oublier qu'il y a des bois à Paris, hein, donc ça permet aussi de moyenner la moyenne. Il y a aussi surtout des objectifs sociaux, puisque d'ici 2035, la mairie de Paris ambitionne d'avoir 40% de logements publics, dont 30% de logements sociaux. Donc, dans les logements publics, il y a notamment les logements intermédiaires. Et comment y parvenir ? Il faut freiner l'essor du bureau. Ce qui était assez intéressant, c'est que la mairie de Paris pensait que le Covid avait fait l'essentiel du boulot. Et puis depuis que on a libéré les gens, en fait, les entreprises affluent dans le centre de Paris, désertent un tout petit peu plus la périphérie. Et donc il y a une tension assez forte du marché des bureaux. Il y a quand même puisqu'on atteint les 1000 euros du mètre carré sur les immeubles prime dans le quartier central des affaires. Donc ça fait le bonheur et la joie des investisseurs institutionnels qui ont un patrimoine dans ces secteurs-là, surtout dans ces moments de marché qui sont un tout petit peu chahutés. Comment on freine l'essor du bureau ? Eh ben en fait, on supprime le potentiel d'extension de 10% quand vous refaites des surfaces d'activité économique qui étaient autorisées. Et puis surtout, on ressuscite une servitude de mixité fonctionnelle. Grosso modo, vous avez un projet de plus de 5000 mètres carrés de restructuration ou de construction dans Paris. Il faudra systématiquement mettre à minima 10% de logements dans cet immeuble. Donc d'accord. En fait, il faudra avoir une mixité d'usage. Et puis l'autre chose, c'est qu'on pastille des immeubles dont on décide que la destination deviendra du logement. Il y a à peu près 600 nouvelles pastilles qui ont été distribuées par la mairie de Paris.
Et donc on dit, poup, là, ce sera
je prends un immeuble, je mets une pastille et je dis, si vous faites des travaux de réhabilitation lourde, donc c'est grosso modo si vous changez plus de 20% des éléments structurants de l'immeuble, donc vous avez besoin d'une autorisation d'urbanisme, et ben je vous l'accorde uniquement si vous faites du logement. Donc, évidemment, les investisseurs institutionnels sont un tout petit peu surpris, un tout petit peu foudrage. Alors, ils ont quand même le droit avec eux, ça s'appelle le droit de délaissement. C'est-à-dire que s'ils considèrent qu'ils ne sont pas en capacité de transformer leur immeuble de bureau en logement, la ville de Paris doit racheter cet immeuble à la valeur de marché sans tenir compte des réserves liées à cette servitude fonctionnelle. Donc il faut racheter au prix du marché, il faut en avoir les moyens, et puis s'il n'y a pas d'accord sur les prix, c'est le juge qui va décider. Bon, on voit bien qu'il y a une tension qui...
Après, c'est légitime, hein. Enfin, encore une fois, moi j'arrête pas d'en parler. Il faut trouver un bon équilibre, c'est-à-dire quand on voit que les métropolitains, et je ne parle pas que de Paris, là c'est l'exemple de Paris, mais sont de plus en plus mis à la porte compte tenu de la cherté des prix à l'achat, de la cherté des loyers, à un moment donné, on ne peut pas vider les grandes villes de leurs habitants, c'est-à-dire que vous avez plus que on va finir avec des villes d'entreprises, de touristes ou de grandes fortunes. Il va falloir quand même trouver un équilibre et qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Yann Brossa au sein de la mairie a quand même eu quelques opérations coup de poing qui m'ont paru quand même assez judicieuses de mettre du logement social dans des quartiers où on en voyait de moins en moins. Moi, mes parents, ils ont eu la chance d'en avoir un au cœur de Paris, devant le Forum des Halles. Aujourd'hui, c'était devenu, ces dernières années, ces dernières dizaines d'années, de plus en plus rare. Et là, on sent qu'il y a quand même un retour de cette volonté de mettre du logement social et intermédiaire partout dans la capitale. Et à un moment donné, Paris, c'est pas extensible à merci. Donc, il faut trouver la solution pour réussir à faire cohabiter les entreprises, les touristes, les grandes fortunes, mais aussi les habitants eux-mêmes qui travaillent dans Paris et qui, en termes de transport en commun, alors maintenant qu'on a les grèves aussi, on s'en rend bien compte, c'est que ceux qui travaillent à Paris, dans Paris, souvent ils vivent en grande banlieue parce qu'ils peuvent pas vivre à Paris, et en fait c'est eux qui se retrouvent dans des situations particulièrement problématiques pour faire vivre l'économie parisienne aussi. Donc à un moment donné, il faut trouver un équilibre. Alors après, je suis pas rentrée dans le détail de cette proposition, de la légalité de la chose et de ce que ça implique, mais à un moment donné, il faut trouver effectivement, et donc il y a comme ça des choix qui doivent être faits par les différentes grandes villes, je parle des grandes villes encore une fois, études cette semaine de meilleurs agents pour nous montrer à quel point obliger ou pas les habitants des grandes villes s'en vont. Vous avez, je crois, Lille, plus de 70% de la population qui a pour ambition de quitter Lille, pas parce qu'ils aiment pas Lille, hein, parce qu'ils peuvent plus, mais c'est pareil pour Bordeaux, pour même Montpellier maintenant, parce que les prix ont tellement augmenté, et évidemment pour Paris, de mémoire, vous avez quand même 40% des Parisiens qui vont partir en fait.
Donc, après, il y a deux effets de bord quand même sur cette décision, c'est que d'abord on installe une forme de rente pour ceux qui sont déjà là-dessus. Grosso modo, je touche pas mon immeuble, il restera bureau. Donc on ajoute une pression des loyers sur les entreprises. Donc quelque part, on dégrade aussi la compétitivité économique de Paris. Et puis on rentre dans une période aussi où il faut enclencher la réhabilitation, un peu plus que la rénovation énergétique, c'est la réhabilitation lourde des patrimoines pour décarboner l'immobilier. Et là, on va pas inciter, en fait, à faire de la réhabilitation. Et grosso modo, si je suis investisseur, je fais peinture moquette, une petite réno énergétique, tout va bien, je reste en bureau, je peux avoir des loyers à 1000 euros et finalement j'ai installé la rente. Donc il y a peut-être des contre-effets. Le sentiment, il est pas mauvais. L'ambition, elle est peut-être bonne. Je pense qu'on se trompe d'échelle. On raisonne encore à l'intérieur de Paris. On devrait un peu raisonner au niveau de la métropole du Grand Paris. Mais ça veut dire qu'il faut que les élus se coupent un bras pour arrêter d'empiler le millefeuille administratif qu'on a. Parce que je pense qu'on se trompe d'échelle. Pas d'ambition, mais d'échelle.
Eh bien, le chrono a défilé et c'est Finish qui s'est...
Mais ça, on en parlera. Nous, on fait un événement Big Up le 6 avril où on essaye de mettre la mairie de Paris face à un investisseur institutionnel pour essayer d'avoir un duel pas pour se mettre des claques, on est entre gens de bonne compagnie. Donc simplement pour s'expliquer et pour se dire est-ce que c'est un bon ou un mauvais calcul.
Enfin aujourd'hui la crise c'est celle plus du logement. Enfin j'insiste là-dessus hein, quand même hein, sur les difficultés de se loger.
Mais il faut quand même de la compétitivité des entreprises parce que sinon derrière il y a une crise de l'emploi.
Oui, c'est pour ça qu'il faut un euro-mélange.
J'ai dit que c'était marqué quoi là-bas.
Oui, finish. Je sais, c'est fini le timing.
Mais quand même,
il faut un euro-mélange.
Merci à tous les deux.
Il faut des travailleurs aussi.
Marie Cœur de Roy qu'on retrouve demain.
Oui.
Et Gaëlle Thomas qui nous accompagnait pour le Club Immo cette semaine. Merci beaucoup pour Business Immo. Dans un instant, on continue bien évidemment à vous donner un maximum de conseils. Et le CAC 40, lui, bien, il grignote un petit peu de terrain. Plus 0,16, 7124 points.